Olivier de Schutter, pouvez-vous nous dire quels sont les obstacles à la réalisation du droit à l'alimentation et aussi les moyens pour les surmonter?
Alors, nous avons aujourd'hui une situation tout à fait dramatique avec 925 millions de personnes au moins qui ont faim dans le monde. Et la grande erreur que l'on a commise, c'est de croire que cette faim, elle venait de ce que l'on produisait trop peu et de ce qu'il suffisait d'augmenter la production pour satisfaire une demande croissante. Comme si la faim était liée à une insuffisance de nourriture par rapport à la population en croissance dans le monde. Et c'est une lecture erronée de ce qu'est la faim. La faim, c'est en réalité le résultat d'un processus de marginalisation d'un certain nombre de groupes de la population, le résultat de pauvreté, d'inégalité dans les campagnes, et c'est le résultat d'une absence de pouvoir politique, de la petite paysannerie qui a été oubliée des politiques publiques. Par conséquent, les obstacles, c'est principalement des investissements qui n'ont pas été ciblés vers les plus pauvres, qui n'ont pas bénéficié aux plus petits paysans dans les pays en développement, qui représentent aujourd'hui encore la majorité des personnes qui ont faim dans le monde. Et d'où vient la faim? Parce que il y a certes d'autres groupes de personnes qui ont faim, il y a à côté des petits paysans, des pauvres dans les villes, des travailleurs sans terre, des peuples indigènes qui sont dépendants des forêts et qui aujourd'hui voient menacer leurs moyens d'existence, notamment en raison du changement climatique. Mais beaucoup de ces groupes sont victimes d'un même processus de développement qui n'a pas suffisamment été bénéfique aux plus pauvres. Et on a réussi au fond à augmenter les volumes de production, mais on n'a pas suffisamment réfléchi à partir du droit à l'alimentation aux moyens d'aider ces populations très vulnérables.
Quelles sont les réflexions que vous proposez au niveau du droit à l'alimentation?
Je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience de ce que l'on doit changer de cap et de ce que la petite agriculture familiale dans les pays en développement qui a été négligée et qui a créé cette migration très importante des campagnes vers les villes sur ces 30 dernières années avec aujourd'hui 1,2 milliard de personnes qui habitent dans les bidonvilles des grandes cités des pays en développement. Je crois que ces investissements dans l'agriculture doivent être axés sur ces populations-là. Et il faut réorienter nos politiques de manière à rendre viable cette agriculture familiale et de manière à ce que les revenus dans les campagnes puissent augmenter. Je crois que c'est à partir de là que des solutions peuvent être trouvées, même si jusqu'à présent, on a surtout voulu maintenir des prix bas pour les populations urbaines, pour les pauvres des villes, au détriment des petits producteurs dans les campagnes. Et au fond, on a créé de la pauvreté en même temps qu'on voulait répondre au problème de la faim par des prix bas et par des politiques qui ne donnaient pas aux paysans des revenus suffisants. Et donc, il faut commencer par investir là, dans les campagnes. Il faut aussi avoir des politiques sociales qui soutiennent les pauvres dans les villes. Et il faut essayer de travailler sur ces deux plans de manière simultanée.
En Afrique, plus de 200 millions d'hectares de terres cultivables sont disponibles et aussi très convoitées. Quelles sont les menaces par rapport à ces terres ou au contraire les enjeux positifs?
C'est vrai qu'on estime qu'il y aurait dans le monde aujourd'hui 400 millions d'hectares de terres disponibles, dont 200 millions en Afrique. Mais cette présentation des choses est parfois très trompeuse. Ces terres sont des terres dont dépendent en fait des populations qui sont ignorées, qui sont des petits éleveurs qui font paître leur bétail sur ces terres qui jusqu'à présent sont disponibles pour cela. Ce sont des terres dont parfois les gens dépendent pour avoir accès à des terrains de pêche. Ce sont des terres qui parfois sont utilisées par des populations qui ont des pratiques de chasse ou de cueillette. Et les terres disponibles sont parfois utiles à des populations, notamment nomades, qui aujourd'hui sont très menacées par ce phénomène de l'accaparement de terres. Donc il faut prendre avec beaucoup de précaution ces indications sur les terres disponibles. Et je crois que la priorité est surtout d'investir sans doute dans l'agriculture, mais de le faire de manière à ne pas apporter des bouleversements qu'implique l'achat de terres à large échelle, le développement de grandes plantations, très souvent au détriment des populations locales. N'oublions pas qu'en même temps que l'on dit qu'il y a beaucoup de terres disponibles, l'on constate que dans beaucoup de régions du monde, notamment en Afrique, la parcelle disponible par famille dans les zones rurales se rétrécit. Chaque génération voit la terre disponible se raréfier pour elle. On perd beaucoup de terres à raison de la désertification et de la dégradation des sols. 5 à 10 millions d'hectares de terres sont perdus chaque année pour l'agriculture en raison de cela. Il y a une pression sur les terres qui vient de l'urbanisation croissante, de grands projets d'infrastructures. Donc, il y a des pressions sur la terre aujourd'hui qui font que la priorité, c'est donner un accès plus équitable à la terre, distribuer la terre de manière plus équitable et pas nécessairement développer des grandes plantations sur des terres soi-disant disponibles.
Comment est-ce que ce discours que vous venez de dire, comment vous le faites arriver là où il doit arriver?
Les gouvernements sont aujourd'hui à court d'imagination. On a tout essayé. On a essayé dans l'agriculture des politiques très étatisées dans les années 60 et 70. On a ensuite essayé la libéralisation de l'agriculture et la soumission de l'agriculture aux règles de la compétitivité et de la libéralisation commerciale. On a essayé des techniques de modernisation de l'agriculture à travers des technologies qu'on appelle des technologies de la révolution verte, avec des mécanismes d'irrigation, une mécanisation, une dépendance très forte sur les engrais chimiques et les pesticides. Et tout ça a échoué. Et les gouvernements aujourd'hui sont véritablement en recherche de nouvelles idées. Et je pense qu'il faut changer de cap, qu'il faut développer l'agriculture dans une direction différente des directions qui ont été jusqu'à présent explorées, en favorisant les petits paysans de manière à, par exemple, leur permettre de s'organiser en coopérative, développer des techniques de production qui sont économes en intrants externes et qui permettent à ces petits paysans d'être moins dépendants de l'accès au crédit pour produire ce dont ils ont besoin pour avoir des revenus. Il y a donc aujourd'hui, je crois, très honnêtement, dans le chef des gouvernements, le besoin de trouver des solutions nouvelles. Et les gouvernements se rendent compte que sans cibler véritablement nos efforts sur les plus pauvres, et notamment sur les plus petits paysans, l'on ne va pas aboutir à des résultats en matière de réduction de la faim et de la malnutrition. On ne réussira pas à surmonter ce défi si on se contente de recettes productivistes qui vont augmenter les productions sans doute, mais qui ne vont pas permettre d'augmenter les revenus pour les plus pauvres dans les zones rurales.
Olivier de Schutter, vous avez bien évidemment été sur le terrain. Quand vous parlez ainsi, c'est aussi un homme qui est en contact avec des réalités.
Mais écoutez, il y a heureusement dans mes missions que je fais dans les pays en développement beaucoup de choses très encourageantes que je vois et qui donnent des raisons d'espérer. Par exemple, le Brésil a développé depuis quelques années un très grand nombre de programmes sociaux et de programmes de soutien à l'agriculture familiale qui ont eu des résultats tout à fait spectaculaires. Ils ont réduit la malnutrition infantile de 73% entre 2003 et 2009. Ces différents programmes sont réunis au Brésil sous la dénomination Fome Zero. C'est une stratégie zéro faim qui a été lancée en 2003. Ce sont des programmes qui présentent ces caractéristiques d'être extrêmement participatifs. C'est-à-dire que la population, la société civile se trouve représentée dans les instances de décision qui définissent les grandes orientations qui sont à prendre par le gouvernement. Ce sont aussi des programmes qui permettent de relier beaucoup mieux la production agricole aux consommateurs en développant des chaînes courtes à l'échelle locale et notamment à l'échelle municipale. Et ce sont des programmes qui ciblent les efforts sur les plus pauvres, par exemple à travers un programme d'aide sociale qui bénéficie aux femmes et qui permet de venir au secours des besoins des familles les plus pauvres. L'exemple du Brésil montre qu'avec de la volonté politique, on peut aboutir à des résultats tout à fait spectaculaires, à condition que ces politiques soient bien informées par les besoins des plus pauvres. Et être bien informé sur les besoins des plus pauvres, ça veut dire leur permettre de participer à la décision, faire en sorte que leurs besoins soient entendus. Je crois profondément que l'on ne peut pas venir au secours des plus pauvres sans les entendre, sans les écouter, sans les associer à la prise de décision, parce que parfois les politiques les mieux intentionnées ne sont pas nécessairement celles qui ciblent les véritables besoins. Dans beaucoup de pays d'Afrique se développent par exemple les pratiques d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi ? C'est l'utilisation d'arbres à côté des plantes qui produisent des récoltes sur une base annuelle ou bisannuelle. Et ces arbres permettent de fertiliser les sols et donc de ralentir la dégradation des sols, qui est une véritable calamité pour l'agriculture en général et notamment pour l'agriculture dans les pays africains. Ces programmes d'agroforesterie, par exemple, ont été très largement développés en Tanzanie, au Malawi, et ce sont des programmes qui sont extrêmement importants, qui au fond permettent de faire l'économie d'engrais chimiques grâce simplement à la plantation d'arbres en bordure des champs qui sont cultivés. Il y a donc, heureusement, des raisons de se réjouir à côté, malheureusement, d'un constat extrêmement sombre qui est celui de progrès très insuffisants dans la lutte contre la faim et la malnutrition en général. On a compris que la faim avait sa source notamment dans l'absence de responsabilité des gouvernements, dans l'absence d'une obligation pour les gouvernements de rendre des comptes. Et c'est le grand économiste indien, Amartya Sen, qui, dans son livre de 1981, « Pauvreté et famine », a montré que les famines avaient leur source, notamment dans, au fond, la passivité des gouvernements, dans l'absence de volonté politique, dans l'absence de sanctions politiques si les gouvernements ne font rien. Et c'est à partir d'Amartya Sen qu'on a pu identifier la faim comme une question politique et pas seulement technique.
Et vous, Olivier de Schutter, en tant que rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, c'est votre travail?
Mon mandat est de convaincre les gouvernements de développer des politiques qui soient davantage respectueuses du droit à l'alimentation et qui permettent de le faire avancer. C'est un outil opérationnel. C'est une manière de mieux cibler nos politiques, c'est une manière de développer des structures de gouvernance qui sont plus participatives et qui permettent par conséquent de mieux prendre en compte les besoins de la population. Et c'est donc une manière pour les gouvernements de travailler plus efficacement. Et mon rôle est de leur dire que le droit à l'alimentation est opérationnel et que prendre en compte le droit à l'alimentation, c'est courir moins de risques de commettre des erreurs, de développer des politiques qui, pour bien intentionnées qu'elles soient, peuvent aller dans une mauvaise direction et peuvent ne pas avoir les résultats que l'on souhaite.